Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité, c'est votre rendez-vous chaque matin de témoignages, de débats sur l'antenne de RFI. Dans la deuxième partie, tout à l'heure, nous parlerons de la Libye avec vos inquiétudes quant à l'internationalisation du conflit. Les combats s'intensifient, le gouvernement de Tripoli avait repris un avantage avec l'aide militaire turque, mais voilà que la Russie a envoyé, semble-t-il, des avions de chasse soutenir ses mercenaires et le camp de Khalifa Haftar, que l'Égypte également envisage une intervention militaire directe. Le ministère des Affaires étrangères français et le ministre Jean-Yves Le Drian a parlé hier de syrianisation de ce conflit. Alors va-t-on vers un embrasement? Que peut-on faire pour stopper l'escalade? Vous nous parlerez de vos inquiétudes, notamment dans les pays voisins de la Libye qui subissent les conséquences de cette instabilité et de ce conflit destructeur. Nous attendons vos réactions. 33 9 693 693 70 sur WhatsApp, vos messages 33 6 89 28 53 64 et sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Mais avant cela, comme depuis plusieurs mois, vous le savez, nous parlons de la vie et du monde à l'époque du coronavirus. Vous nous racontez votre quotidien, vous posez vos questions. C'est ce que fait Salomon qui vit au Cameroun. Bonjour Salomon.
Oui, bonjour François.
Salomon, vous êtes à Douala et vous souhaitez des précisions sur la situation actuelle de l'hydroxychloroquine et sur l'utilisation de ce médicament dans la lutte contre le Covid-19. Allez-y.
Exactement. Une étude publiée dans la revue de Lancet affirmait que le recours à l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19 pouvait être dangereux pour la santé. L'OMS a donc décidé de suspendre ses essais cliniques sur cette molécule. Comment cette étude est arrivée à la conclusion que l'hydroxychloroquine est dangereuse pour le traitement du coronavirus? Cette étude va-t-elle clore le débat initié par le professeur Didier Raoul?
Vos questions, Salomon, je vais les relayer à Agnès Rougier du service sciences de RFI qui est en ligne avec nous. Bonjour Agnès. Agnès Rougier, êtes-vous avec nous?
Oui.
Alors Agnès, lundi, l'OMS a annoncé la suspension des études sur l'efficacité de la chloroquine et de son dérivé, l'hydroxychloroquine, qui est un antipaludéen. La raison, c'est donc cette étude dont nous parlait Salomon, parue dans The Lancet, qui est une revue scientifique très prestigieuse, et qui conclut non seulement, Agnès, à l'inefficacité de ce médicament, mais aussi à sa dangerosité.
Oui, bonjour Salomon, bonjour François. Cette étude arrive en fait à la suite de plusieurs autres, mais cette fois elle a une méthode un peu différente. Alors l'hydroxychloroquine, c'est donc un antipaludéen qui est utilisé aussi contre des maladies comme le lupus, le polyarthrite rhumatoïde, mais ici il est censé bloquer la multiplication du virus dans les cellules. Il se trouve qu'avec les essais du professeur Raoult à Marseille, l'hydroxychloroquine a bénéficié d'une notoriété particulière, mais depuis plusieurs essais ont été menés et qui ont donné lieu à des publications. Et ils ont conclu à une absence d'efficacité accompagnée d'effets secondaires préoccupants sur le rythme cardiaque. Mais l'étude du Lancet va plus loin parce qu'elle conclut que l'administration de chloroquine ou d'hydroxychloroquine associée ou non à des antibiotiques accroît en réalité le risque de mortalité.
Vous avez dit, Agnès, que cette étude est différente. Pourquoi ?
Oui, en fait, le professeur Mira et son équipe de la Harvard School of Medicine à Boston, aux États-Unis, ont analysé les données qui proviennent de 671 hôpitaux sur ces 5 continents. Bon, il y en a quand même 60% en Amérique du Nord, mais ces données ont été analysées entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. Ils ont donc comparé l'évolution et la mortalité des patients Covid+, en fonction de leur traitement. Et sur un peu plus de 96 000 patients, 15 000 ont eu de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, associés ou non avec des macrolides, qui sont les mêmes antibiotiques que celles utilisées par le professeur Raoult à Marseille. Et les graphiques présentés dans l'étude par l'équipe du professeur Mera sont très clairs. Ils montrent nettement un accroissement de la mortalité et une très forte augmentation de l'arythmie cardiaque, donc associée aux causes de décès.
Alors Agnès Rougier, on a entendu dire que dans les essais sur l'hydroxychloroquine, eh bien celle-ci n'avait pas été administrée dès le début de la maladie, contrairement à ce que recommande justement le professeur Raoult.
Oui, mais ici, seuls les patients traités au plus tard 48 heures après le diagnostic Covid, plus, ont été pris en compte. Donc, plutôt en début de maladie, mais quand même à leur arrivée à l'hôpital, ce qui peut donner un petit délai. Des médecins pensent néanmoins que ce ne serait peut-être pas pertinent d'en commencer plus tôt l'administration, parce qu'en réalité, beaucoup de gens guérissent spontanément, donc ça n'aurait pas de sens.
Oui, l'OMS donc a demandé la suspension des études en cours sur l'hydroxychloroquine. Cela concerne toutes les autres études sur cette molécule, également celles qui ne sont pas dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, la partie hydroxychloroquine de l'essai de l'OMS Solidarity est suspendue. L'essai européen, Discovery la suspend aussi. En France, à la suite d'un avis défavorable du Haut Conseil de la Santé publique, le gouvernement a interdit la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital, hors essai clinique. Mais le CHU d'Angers a quand même suspendu l'étude du Covid par principe de précaution. Alors, à l'Institut universitaire de Marseille, le professeur Didier Raoult, qui a soigné près de 4000 personnes atteintes du Covid-19, a déclaré à l'AFP qu'il va continuer à soigner ses patients avec, je le cite, les traitements les plus adaptés. Car pour lui, une étude sur la base de chiffres, comme celle du Lancet, ne remplace pas la réalité du terrain. Mais il faut rappeler quand même que c'est la première étude grand format qui prend un peu de recul. Et jusqu'ici, ce sont surtout des études sur des nombres restreints de patients qui ont été menées et dans des conditions d'urgence, rappelons-le, et avec des critères donc parfois insuffisants.
Agnès, il y a aussi d'autres études qui sont actuellement en cours et qui portent sur d'autres traitements, rappelons-le.
Oui, bien sûr. D'après The Lancet, il y a plus de 800 essais cliniques en cours pour évaluer des dizaines de traitements potentiels. Mais en fait, avec la régression de l'épidémie, c'est probablement de plus en plus compliqué d'avoir suffisamment de patients pour continuer à mener des essais sur des molécules dont finalement le bénéfice n'est pas toujours évident.
Merci Agnès Rougier d'avoir été avec nous et merci à Salomon qui posait ces questions en ligne de Douala au Cameroun. Je rappelle que plusieurs États africains comme le Sénégal, le Tchad ou encore l'Algérie ont annoncé depuis hier poursuivre avec l'utilisation de la chloroquine dans leur traitement de patients malades du coronavirus, et ce donc en dépit des décisions prises par l'OMS et de cette grande étude menée par The Lancet, qui compte quand même 96 000 patients. On en vient à vos témoignages maintenant. Le premier ce matin nous emmène au Maroc. C'est à Darla, c'est le sud du Maroc, juste avant le Sahara occidental. C'est là que l'on retrouve Alioune Vieux. Bonjour, soyez le bienvenu. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends. Bonjour.
Alors Alioune, vous êtes résident à Casablanca. Vous étiez en route pour le Sénégal mi-mars, sauf que vous n'avez jamais pu regagner votre pays d'origine. Et vous êtes donc coincé à Darla. Racontez-nous votre odyssée.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, voilà, comme vous le savez, je vous représente Alioune. Donc, je suis un des représentants des Sénégalais bloqués ici à la frontière, dans l'hôtel l'auberge des 16 personnes. Voilà, donc je parle alors leur nom. Voilà, donc c'est tout simplement je vous ai dit, on est quitté à Casa depuis le 15 mars, mi-mars, donc en fait pour le Sénégal. Donc voilà, donc depuis lors, nous on est bloqué ici en fait à la frontière, à la ville frontalière d'Arla. Et là, donc on attend que notre État, depuis lors, ils nous ont abandonné, ils font rien. Donc voilà.
Oui, Alioune, vous n'êtes pas le seul dans cette situation, c'est important de le préciser. Il y a des dizaines d'autres ressortissants sénégalais qui sont coincés, comme vous, sur la route vers le Sénégal.
Oui, tout à fait. Je ne suis pas le seul. Donc, en fait, moi, je suis le seul résident ici. Nous, on est des centaines de personnes. Donc, on s'est dispatché. Il y a des gens qui sont dans la ville qui est à Boujdour. Il y a Gargarat aussi. Ici, à Darla, il y a trois hôtels qui sont, on est séparés. Donc, du coup, il y a des gens qui rentraient au Sénégal. La plupart, c'est des étudiants, des commerçants qui faisaient des allers-retours entre le Sénégal et le Maroc. Aussi, des pèlerins qui étaient venus ici pour commémorer leur chef, enfin, savant, la chère Ahmed Tijane. Donc eux aussi, ils sont bloqués. Et c'est en gros, en tout, on est à une centaine de personnes.
Et les autorités marocaines, la police, vous disent que c'est à cause de la Mauritanie qui a fermé la frontière et donc que vous ne pouvez pas passer.
Oui, en fait, nous, au début, avant qu'on... parce que là où on est, l'hôtel, pour préciser, c'est une hôtel, un hôtel Sahara qui s'appelle Hôtel Sahara. Donc, en fait, pour info, parce que la plupart des gens, ils disent qu'en fait, c'est l'État sénégalais qui le paye, qui le prend en charge, alors que c'est le wilaya. C'est-à-dire, c'est le gouverneur ici de cette ville-là qui le prenne en charge, qui nous nourrit, qui nous donne tout. Alors, donc, l'État sénégalais n'a rien fait depuis lors. Alors, donc,
vous demandez votre rapatriement organisé par l'État du Sénégal et pour l'instant, vous n'avez pas été entendu.
Voilà, tout à fait. Depuis presque plus de 3 mois, nous, on est là à attendre. Il n'y a aucune réponse hein, de la part de l'État sénégalais. Alors, donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste une réponse. Alors, pourquoi l'État sénégalais, il y a presque 3 mois sans nous appeler ou voilà, nous envoyer un vol? Déjà, c'est simple, nous envoyer parce qu'on entend, il y a des vols qui partent de à Paris, au Burkina Faso et à comment s'appelle le pays arabe saoudite pour aller chercher les Sénégalais. Alors nous, on est tout prêt ici, donc en fait, c'est ici.
Il y a des rapatriements organisés d'autres pays et qui vous ne vous concernent pas, donc vous qui êtes à Darla et à la frontière marocaine avec de nombreux autres Sénégalais. Et donc, vous avez profité de l'émission pour en appeler aux autorités de votre pays à organiser ce rapatriement. Merci à Lune d'avoir fait passer ce message. Nous allons maintenant en Zambie. On dénombre là-bas 9 décès du Covid, 1 millier de cas. Et André Barbier est avec nous. Bonjour.
Bonjour, François. Bonjour, vous êtes avec nous.
André, vous êtes congolais d'origine et lusacois de résidence et on va vous reprendre après parce que la ligne n'est pas très bonne. Peut-être que Ben, auditeur habitué de RFI à Abidjan, est avec nous. Non, Ben n'est pas encore là. André Barbier, est-ce que vous m'entendez mieux? André Barbier, êtes-vous là?
Oui.
Ah, alors on va essayer de vous écouter malgré l'écho. Alors expliquez-nous déjà quelles sont les mesures en place en Zambie pour lutter contre la maladie et est-ce qu'elles sont suivies par la population?
Écoutez, c'est depuis le 20 mars que le gouvernement zambien avait pris certaines mesures, notamment fermeture des universités, des écoles, des lieux publics. Et depuis ce 20, le ministre de la Santé nationale ainsi que sa collègue de la communication ont cessé de demander à la population d'observer des mesures barrières. Donc, ces mesures barrières sont observées par une catégorie de personnes, mais le reste de la population jusqu'à présent n'observe pas ces mesures barrières.
Ouais, la population zambienne respecte peu. Comment vous l'expliquez, ce manque de précaution?
Vous dites?
André, comment vous expliquez ce manque de précaution de la part des Zambiens?
Simplement parce qu'au début de la pandémie, même jusqu'à présent, la population n'a pas pris au grand sérieux les effets du Covid-19. Alors, au regard du cas que la Zambie regorge, mais surtout au regard de décès que jusqu'à présent, nous n'avons que 9 décès. Alors cela, le reste de la population n'a pas pris au grand sérieux donc les effets de la pandémie. Jusqu'à présent, peut-être que le changement peut advenir lorsqu'ils se rendent compte que hier, par exemple, dans les journaux officiels ici à Lusaka, on annonçait le retrait du ministre de la Santé qui s'est mis même en quarantaine parce qu'ayant été positif. Je pense que cela peut avoir un impact.
Merci André Barbier. Cette fois, la liaison s'est vraiment dégradée avec Lusaka en Zambie. Merci en tout cas d'avoir apporté ce témoignage, puisque c'est vrai que la situation sanitaire en Zambie, on en a assez peu parlé depuis le début de cette épidémie. Merci donc de nous vous avoir appelé. Avec nous en ligne ce matin, Saul Banks, bonjour.
Bonjour, très cher, comment vous allez?
Je vous remercie, et vous, comment allez-vous?
Je vais très bien, Dieu merci.
Donc vous êtes un chanteur guinéen, hein, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais enfin, ils n'ont pas dû écouter RFI, puisqu'on vous connaît bien sur l'antenne de la Radio du Monde, prix découverte 2016. Cette chanson qu'on écoute, enregistrée avec Manamba Kanté, la fille de Maury Kanté, décédée la semaine dernière. Alors actuellement, vous êtes à Paris, guinéen d'origine, je le rappelle. Lundi soir, vous avez participé au One, ce grand concert panafricain en ligne contre le Covid. Alors, racontez-nous un peu cette expérience. Comment ça s'est déroulé?
Oui, ça s'est déroulé via... Moi, j'ai eu le contact via Bella qui est le responsable de l'équipe de donc... Il m'en a parlé, donc j'ai trouvé intéressant de pouvoir y participer parce que pratiquement nous sommes tous confinés ici en France, à Paris. Moi, je suis avec ma femme, on était là depuis janvier. Et voilà, nous étions censés nous retourner depuis le 1er avril, mais malheureusement, le confinement a commencé avant. On voit notre date de départ, donc il était question de rester ici. Mm-hmm. Donc, vu qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir se retourner. Donc, c'était une occasion pour moi de pouvoir m'exprimer aussi, de pouvoir faire comprendre que ce
fléau qui est apparu. D'apporter votre contribution. Oui. Alors, vous pensez que ce genre d'initiative, c'est vraiment primordial pour faire de la prévention contre les effets du coronavirus sur le continent africain?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. C'est très important, surtout que... Et qu'on l'a fait avec des artistes que les gens ont l'habitude de voir à la télé, tu vois, pour les, voilà. On a l'habitude de voir à la télé, à la radio, d'écouter à la radio, sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, qui s'implique, voilà.
Oui, il y avait Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, Fally Ipupa, vraiment la crème de la musique francophone africaine.
Il y avait Maury Kanté et tout, donc c'est vraiment intéressant, important de faire comprendre au monde entier que s'il y a un problème, les artistes sont les premiers, en tout cas. Moi, je me dis toujours, les artistes sont les premiers touchés parce que on est les premiers à s'impliquer à 100% de venir aux sensibilisations. Mais aussi, voilà, il faut comprendre qu'on est aussi les premiers touchés parce que nous, on ne vit que des spectacles. S'il n'y a pas de concert, ça veut dire que les artistes ne vivent pas. Donc aujourd'hui, on est vraiment touché à 100%.
Et oui, comme tous les autres travailleurs, vous subissez les conséquences économiques de cette crise. Alors vous n'avez pas pu rentrer en Guinée, vous l'avez dit tout à l'heure. J'imagine tout de même que vous êtes en contact avec vos proches là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur la situation actuelle?
Alors, des fois, je trouve, via quand je parle avec les gens, j'essaie de les faire comprendre d'ici. Et ma famille qui se trouve en Guinée, mes proches, j'essaie de les faire comprendre que cette maladie, elle existe. C'est une maladie qui tue, qui est en train de tuer des millions de personnes. Donc, j'imagine des fois que c'est pas simple pour les gens d'y croire, mais il faut les faire comprendre que ça existe parce que, voilà, et c'est ça notre problème généralement dans nos pays et tout. Quand il se passe une telle situation, les gens ont du mal à croire parce que il y a un problème de communication, il y a un problème, voilà, le problème de communication qui se passe toujours, c'est que on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'attendre. C'est important.
Oui, la parole officielle n'est pas toujours reçue et écoutée par les populations.
Voilà, donc moi j'ai fait en sorte de la parler via nos réseaux sociaux. Et je l'ai fait avec ma femme. Donc on a fait des lives parce qu'on est suivi par des milliers de personnes aussi. Donc on a profité de ça, parler dans les langues surtout. Parler en langue, les faire comprendre que cette maladie...
Ouais, afin de toucher le maximum de personnes. Merci Cyril Banks d'avoir été avec nous. On arrive au bout de cette première partie de l'émission. À suivre, le journal sur la Radio du Monde. Et on se retrouve juste après notre débat sur la situation en Libye.